L'été, votre bagage, c'est France Culture. Nous rejoignons Hervé Gardette et Jean Birnbaum en direct de Montpellier, en partenariat avec le journal Le Monde.
Révolution. Ceci est une démo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Montpellier, nous sommes en direct et en public dans la cour Soulages du rectorat. C'est déjà la dernière journée de ces 31e rencontres de Pétrarque. Bonjour Jean Birnbaum.
Bonsoir Hervé Gardette, bonsoir à toutes et à tous.
Alors Jean, vous êtes trop jeune pour avoir connu les Tamagotchi, c'était il y a une petite quinzaine d'années. Ah oui. La date de leur apparition fera peut-être référence plus tard pour marquer une des grandes étapes de la révolution anthropologique dans laquelle nous sommes plongés. Les Tamagotchi, pour répondre à votre question Jean Birnbaum, c'est des jouets électroniques en forme d'œuf venus du Japon. Sur un écran miniature, on voyait un animal virtuel, un animal de compagnie, dont les enfants devaient prendre soin en les nourrissant, en les soignant, en prenant de leurs nouvelles. Sans cela, ils finissaient par mourir. Les premiers de l'espèce avaient d'ailleurs une espérance de vie assez courte, 3 mois en moyenne. Alors cette expérience inédite avait à l'époque provoqué quelques débats. Les Tamagotchi étaient-ils dangereux pour les enfants? Leur faisaient-ils perdre le sens du réel, voire les traumatisaient-ils au moment de la mort du petit animal? Ou bien au contraire, s'agissait-il d'outils intéressants pour apprendre à ces mêmes enfants ce que c'est qu'être responsable de quelqu'un d'autre? Alors depuis, ces jouets ont presque disparu, mais les questions, elles, sont toujours là, sauf qu'elles se posent désormais sur une plus grande échelle générationnelle. Les robots, dotés d'une intelligence artificielle, prolongent le règne des animaux virtuels. Ils rentrent dans nos maisons, dans nos voitures, ils accompagnent les militaires, voire les remplacent. Certains finissent même par nous ressembler, au point qu'on se demande jusqu'où peut nous mener cette nouvelle empathie. Cette révolution technologique qui ne fait que commencer oblige à repenser ce qui fait la spécificité de l'homme, d'autant que ce dernier est aussi confronté au bouleversement de la connaissance sur les animaux, les révolutions animales, pour reprendre le titre d'un ouvrage publié l'an dernier, ouvrage collectif aux éditions Les Liens qui Libèrent. Le paléo-anthropologue Pascal Pic va même jusqu'à se demander dans son dernier ouvrage ce qui se passera quand l'intelligence des animaux s'alliera à celle des machines. Alors, robots, animaux, l'humanité détrônée, eh bien c'est le thème de cette dernière journée des rencontres de Pétrarque, à laquelle nous avions convié 3 invités, Pascal Pic justement, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer qui est philosophe et Serge Tisseron qui est psychanalyste. Sur les 3, il n'en reste qu'un et c'est vous Serge Tisseron et on est ravis de vous avoir. Voilà, les 2 autres nous ont fait défaut, je crois qu'on peut l'applaudir effectivement de manière très chaleureuse. Merci d'avoir tenu votre engagement à nous rejoindre à Montpellier. Je laisse ce soin à Jean Birnbaum de vous présenter.
Oui, je vais vous présenter en gloire, donc déjà un triomphe d'emblée. Vous êtes un psychiatre et un psychanalyste acclamé dès le début de ces rencontres. Vous avez fait votre analyse, je crois qu'on en parlait juste avant le début de cette émission, sur le divan d'un élève fameux de Jacques Lacan qui s'appelait Didier Anzieux, auquel vous avez d'ailleurs rendu un bel hommage dans un livre intitulé « Fragments d'une psychanalyse empathique ». Voilà un mot qui a déjà été prononcé par Hervé Gardette et qui est très important pour vous, on va le voir. Et le sous-titre, c'était « Devenir soi à deux ». C'est paru chez Albin Michel. On verra donc que ce mot empathie est central dans tout votre travail. Vous avez soutenu une thèse de médecine originale sous la forme d'une bande dessinée. C'était La Belle Vie, on pouvait faire sa thèse sous forme de BD. Et cette thèse est consacrée à l'histoire de la psychiatrie. Vous êtes ensuite devenu psychiatre à l'hôpital en vous inscrivant dans cette constellation de cliniciens, de praticiens qui refusent de baisser les bras devant la marginalisation croissante, inexorable de la psychanalyse, comme le font d'ailleurs du reste vos collègues par ici, à Montpellier, en dehors de Montpellier. J'étais tout récemment à la clinique Saint-Martin de Vignogoule, qui est un lieu d'avant-garde très important de ce point de vue. Bref, vous êtes de ces psychiatres, de ces psychanalystes qui réaffirment sans cesse la portée émancipatrice d'une psychanalyse humaniste et qui ont à cœur de montrer en même temps que la psychanalyse n'est pas enfermée dans les cabinets, ni même dans les hôpitaux, qu'elle éclaire les problèmes de nos sociétés. Vous avez notamment publié des essais consacrés aux images, aux nouvelles technologies, à la façon dont ces nouvelles technologies bouleversent les liens humains. Et aujourd'hui, puisque nous allons parler des robots, Hervé l'a dit, eh bien, il faut citer notamment « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle », qui est paru chez Albin Michel en 2015, un essai dans lequel vous montrez, en gros, en substance, Serge Tisseron, que l'intelligence artificielle risque de remettre radicalement en question non seulement nos représentations du monde et des objets qui nous entourent, mais aussi le destin de nos libertés et le statut de ce qu'on nomme finalement l'humanité. C'est bien ça, Serge Tisseron, je crois.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez commencé en évoquant les Tamagotchi. Alors, je veux quand même, parce que j'ai connu cette période, à rappeler à ceux qui l'ont connu quelque chose qui a beaucoup surpris les chercheurs à cette époque-là, c'est que ceux qui respectaient le mode d'emploi officiel des Tamagotchi, c'était les adultes. Si vous vouliez embêter un adulte, vous lui offriez un Tamagotchi, et en général, l'adulte s'appliquait, en effet, avec beaucoup de soin, à nourrir la petite bête numérique, à lui faire faire ses besoins, à la nettoyer, à veiller sur elle. Mais beaucoup d'enfants avaient détourné très vite les Tamagotchi et essayé de faire mourir le petit animal numérique le plus vite possible. Et donc, on s'était aperçu que le détournement était vraiment au cœur de l'utilisation que les jeunes font des technologies numériques. Les adultes souvent abordent les technologies numériques avec l'idée qu'il y a un mode d'emploi à respecter. Les jeunes les abordent avec l'idée qu'il y a un mode d'emploi à détourner. Voilà.
Est-ce que veut dire, Serge Tisseron, que quand on s'inquiète peut-être aujourd'hui de ce que va être cette société dans laquelle la robotisation avance à grands pas avec des machines, des outils qui nous ressemblent de plus en plus, qui sont de plus en plus autonomes, c'est une inquiétude avant tout d'un monde d'adultes, mais que peut-être les plus jeunes qui vont naître aussi avec ces machines-là sauront, eux, s'adapter, puisqu'il est aussi question d'adaptation.
Ils ne sauront pas forcément s'adapter de la meilleure des façons, mais en revanche, il y a toujours une part d'initiative, de détournement, d'imagination qui accompagne l'utilisation que les plus jeunes font des technologies qu'on leur confie. Alors, je vais dire aussi un mot par rapport au livre, au titre de mon livre, Le jour où mon robot m'aimera, parce que il faut pas que vous en déduisiez que dans mon livre, j'explique qu'un jour mon robot m'aimera. Pas du tout. C'est un titre inspiré d'un ouvrage célèbre que vous connaissez tous, s'appelle Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, le titre de l'ouvrage Le meilleur des mondes, ça veut pas dire que le meilleur des mondes existe. Ça veut dire que le jour où vous croirez qu'il existe, eh ben, vous êtes perdu. Voilà. Vous êtes perdu parce que vous êtes complètement aliéné à la propagande qui essaye de vous faire croire que le monde dans lequel vous vivez est le meilleur possible. Ben, si un jour vous pensez que votre robot vous aime, eh bien sachez que vous serez complètement aliéné à la puissance publicitaire des fabricants des robots qui chercheront en effet à nous faire croire que les robots pourraient avoir des vraies émotions. On en reparlera. Mais donc c'est vraiment un titre de mise en garde calé sur le meilleur des mondes. Voilà.
Donc c'est moins une mise en garde qui est liée à ce que pourraient être les évolutions technologiques qu'à la façon dont nous allons justement nous comporter à l'égard de ces robots, c'est ça ?
Oui, complètement. Alors, il faut bien. Alors, par rapport au titre de la table ronde d'aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce développement des technologies numériques, mais au-delà de la robotique, ce développement impose à l'être humain ce qu'on pourrait appeler une quatrième grande blessure narcissique. Vous savez, la première blessure narcissique de l'homme, c'est de découvrir que la Terre n'est pas au centre du monde. Voilà, c'est Galilée. La deuxième, c'est de découvrir que l'homme descend des espaces précédents. Voilà, c'est pas une créature ex nihilo sortie tout d'un coup de la main de Dieu et supérieure à toutes les autres. Donc, peut-être Dieu y a mis sa main quand même, mais en tout cas il y a eu une évolution qui l'a précédé, il en est le point d'émergence. Et puis la troisième blessure narcissique de Freud, l'invention de la psychanalyse, qui montre que l'être humain n'aime pas, même pas le maître dans sa propre maison, ce que confirme d'ailleurs en grande partie aujourd'hui la neuroscience. Et donc aujourd'hui avec les robots, avec les technologies numériques d'abord, avec les robots ensuite, on est confronté en effet au fait que des machines doués d'intelligence et même peut-être doués d'émotions un jour pourraient être des humains plus que parfaits. Alors peut-être c'est possible, peut-être pas, mais j'encourage chacun à ne pas le croire trop vite.
Et en même temps, oui, c'est intéressant puisque vous êtes psychanalyste, donc vous avez cette fameuse écoute analytique de ce qui se dit, de ce qui se sent, de ce qui circule en termes d'émotions entre êtres humains. Là, tout à l'heure, quand vous avez parlé de ces personnes qui, en fait, à un moment donné, embarrassées, se mettaient à faire mourir les Tamagotchi, vous avez vu qu'il y a eu un rire dans la salle. Ça a fait rire la salle, dans le public, une partie du public, évidemment, pas toute. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Puisque vous parlez de voilà la question de l'émotion, de l'empathie avec les robots ou pas avec les robots. Là, vous parliez de la mort du robot. Il y a eu quelque chose comme un soulagement, dit quelqu'un dans le public, ou un rire collectif. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que psychanalyste qui travaillez sur ces questions ?
Alors, l'idée que des enfants puissent faire mourir des tamagotchi, ça a d'abord affolé un certain nombre de pédagogues. Hein. Puis on s'est aperçu qu'en fait, c'était une manière très saine d'utiliser ces petites machines. Les fabricants ensuite ont modifié le logiciel et le petit animal ne mourait pas, mais le petit animal se mettait à pleurer et à quitter l'écran du tamagotchi en disant au revoir comme un enfant maltraité. Je pense que la première version était plutôt moins traumatisante que la seconde. Mais les fabricants avaient cru bien faire. Petit animal qui vous quittait en disant « Non, tu m'as maltraité, je m'en vais voir ailleurs », c'était un peu déchirant, mais le fait de faire mourir une créature numérique, c'était plutôt drôle. Voilà. Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'on voit combien chaque génération aborde les technologies nouvelles avec des attitudes mentales qui correspondent aux modèles précédents. Et les jeunes ont cette capacité d'aborder les technologies nouvelles dans un esprit nouveau, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est très difficile non seulement d'anticiper ce que seront les technologies, mais même d'anticiper les usages que nous ferons des technologies. Moi, c'est mon problème principal. Je ne suis pas du tout un spécialiste des technologies, hein. Bien que j'ai été élu à l'Académie des technologies, mais je suis un spécialiste de l'utilisation que nous faisons des technologies, ce qui n'est pas forcément plus modeste, hein, voilà, mais en tout cas, ce qui est radicalement différent.
Pour rester encore un instant sur la question des Tamagotchi, ils avaient quand même une vertu que n'ont peut-être pas ou que n'auront peut-être pas les robots et d'aujourd'hui et ceux de demain, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'une résurrection. Un animal mourait, un animal identique pouvait renaître. Donc ça dédramatisait énormément le décès de ces petits animaux. Il s'est passé évidemment des choses depuis. Il y a aussi des formes technologiques plus élaborées, bien entendu, parce que c'était quand même assez modeste ce genre de technologie, mais des formes plus élaborées qui sont nées. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, Serge Tisseron, je vous avais reçu sur France Culture pour parler justement de votre livre « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle ». Et on avait notamment évoqué un robot qui est devenu extrêmement célèbre, c'est le robot Philae. Vous savez, c'est ce petit robot qui avait été envoyé sur Mars, si ma mémoire est bonne, qu'on a fini par perdre et qu'on commençait à traiter comme si c'était un être humain, avec une forme de tristesse à se dire, voilà, ce pauvre petit robot abandonné sur une planète qui va peut-être mourir, il faudrait faire tout ce que l'on peut faire pour le sauver. C'est-à-dire comme si on s'adressait, d'une certaine manière, à un humain, comme si on pensait ce robot comme si c'était un humain.
Oui, tout à fait. J'avais été surpris à cette occasion-là de découvrir que l'Agence spatiale européenne se souciait d'anthropomorphiser l'image de ces machines, le petit robot filet qui était envoyé sur la comète de glace et donc qui avait été perdu, vous savez, qui avait été égaré dans une infractuosité. Et il y avait un petit film qu'on voyait sur Internet où on voyait filet comme un petit bonhomme hein, sur l'instrument porteur, le satellite de porteur, et puis ensuite un petit bonhomme qui allait une fois sur la comète avec son petit marteau taper, chercher des échantillons de roches. Et j'avais été sollicité à cette époque-là, à mon grand étonnement, de faire une intervention à l'Agence spatiale européenne parce qu'ils se demandaient quel était l'impact de cette anthropomorphisation hein, de leur machine. D'un côté, c'est un bon moyen de nous rendre ces machines sympathiques. Mais d'un autre côté, il y a peut-être le risque qu'à les trouver si sympathiques, on commence à effacer la distinction entre l'humain et la machine. Donc là, il y a probablement un équilibre à trouver, hein, qui n'est pas du tout encore trouvé, entre un anthropomorphisme qui nous rapproche de ces machines et donc nous les rend sympathiques, familières, on a envie d'interagir avec elles, on les interpelle, on leur donne un prénom, un surnom, voilà. Et puis l'inquiétude qu'on peut avoir que ça aille trop loin et que la distinction entre humains et machines finissent par s'effacer. Et les techniciens sont pris un petit peu aujourd'hui dans ces deux contraintes opposées et c'est une très bonne chose qu'ils y réfléchissent.
Et comment est-ce que vous expliquez, vous, en psychanalyste, c'est le mécanisme qui fait qu'on peut s'identifier à des machines, alors que dans le trio comme ça, homme, animal, robot, on se dit qu'évidemment le robot est le tiers, exclu quelque part, et que ce qui nous fait qu'on a une espèce d'empathie avec les animaux, c'est bien sûr la question de la sensibilité, des sensations, de l'émotion, de la peur, des failles, oui, de la mort, etc. etc. Vous avez montré, dans votre livre, vous racontez notamment que des soldats pour donner un autre exemple, des soldats de l'armée américaine se sont attachés, on a constaté qu'ils s'attachaient aux robots démineurs qui leur sauvaient parfois la vie, et que quand ces robots venaient à être endommagés ou à être détruits, et ces robots auxquels ils avaient parfois donné un nom, bien sûr, eh bien, ils éprouvaient vraiment de la tristesse. Comment est-ce que vous expliquez qu'il puisse y avoir de l'empathie réelle à l'égard d'une machine comme un robot ?
Tout à fait. Il y a même un exemple encore plus frappant, s'agissant de l'armée américaine. Un ingénieur qui s'appelle Twilden a mis au point un robot démineur. Alors, son robot démineur se présente sous la forme d'un phasme à 8 pattes, donc une sorte de bâton robotisé avec 8 pattes. Et puis, le robot se déplace sur le champ de mine, et à chaque fois que l'une de ses pattes se pose sur une mine, elle explose. Donc, il a d'abord 8 pattes, et puis 7, et puis 6, etc. Et il explique que quand il en a fait la démonstration devant l'état-major américain, il y aura un colonel, lorsque le robot n'avait plus qu'une patte et se traîne traîné pour se faire exploser sur une dernière mine, un colonel a dit « Arrêtez, c'est inhumain ». Donc, voilà, les militaires sensibles. Mais alors, notre culture occidentale a beaucoup perdu de vue quand même, et qu'on est en train de redécouvrir avec les robots, c'est que l'être humain aborde de la même manière le monde animé, le monde inanimé, le monde animal et le monde humain. Hein, l'être humain est doté d'une capacité d'interagir avec l'ensemble de ce qu'il rencontre. Voilà, vous rencontrez quelque chose de bizarre, ben vous vous approchez, peut-être vous commencez à parler, voir si la chose répondrait, vous lui donnez un petit coup de pied pour voir si elle se manifeste d'une façon ou d'une autre, voilà, vous approchez. Bon. Et donc l'être humain a toujours interagi de cette façon-là avec l'ensemble du monde animé et inanimé. Alors ça a permis d'ailleurs à l'être humain d'apprivoiser les animaux sauvages en projetant ses émotions, ses pensées sur les premiers loups qui s'approchaient des feux de camp, ben, les humains ont pu voir peut-être dans leurs yeux qu'il y en avait qui étaient hostiles, puis qu'il y en avait qui étaient plutôt désireux, semble-t-il, d'établir un contact. Donc c'est parce que l'être humain a cette capacité de projeter ses pensées, ses émotions sur le monde environnant, qu'il a eu la capacité d'apprivoiser le monde entier. Mais il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a cette capacité d'anthropomorphisme qui nous habite encore chacun d'entre nous qu'on est pour autant animiste, hein, parce que les deux sont souvent confondus. Être anthropomorphe, ben, ça veut dire que on prête aux objets des sentiments, des émotions, des pensées, ou aux animaux des sentiments, des émotions, des pensées, aux gens différents de nous, même chose, on leur prête nos sentiments, nos pensées, nos émotions, alors peut-être qu'ils en ont des traits différents, hein. L'empathie, c'est une construction mentale, on peut se tromper, mais c'est pas pour autant qu'on est animiste, c'est-à-dire c'est pas pour autant qu'on croit que les objets que nous crédit-on d'avoir des émotions, on aurait pour de vrai. Je vous donne un exemple. Si un matin, vous avez un rendez-vous très important, vous avez besoin de votre voiture absolument, vous voulez démarrer, elle ne démarre pas. Ben, peut-être que vous allez dire « Ah ben non, quoi, tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui quand même, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Hein. » Mais ce n'est pas pour autant que vous vous attendez à ce que votre voiture vous réponde. Hein. Non, vous n'êtes pas animiste. Vous êtes anthropomorphe, vous n'êtes pas animiste. Voilà.
Ça me rappelle un livre de Jonathan Coe, « La vie privée de Mr. Sim ». Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont vu, voilà, qui est l'histoire d'un représentant de commerce qui se retrouve sur les routes et qui entretient une relation amoureuse, quoique platonique, avec son GPS, voilà, et qui lui parle et qui finit par rompre avec la voix féminine de son GPS parce qu'elle ne l'emmène pas là où il souhaiterait qu'elle l'emmène. Donc voilà, on voit qu'effectivement on peut pousser le transfert, disons, voilà, très très loin.
Il y a aussi un sketch de Gad Elmaleh sur le sujet, mais évidemment c'est moins hype, hein, comme référence. Mais comme on parlait de culture populaire hier, je veux quand même avoir une incise là-dessus.
Serge Tisseron, si vous avez un autre exemple à nous donner. Sinon, je voudrais vous faire peut-être...
Oui, alors par rapport aux enfants, parce qu'il y a quand même un moment important, hein, c'est 4 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enfant se détache complètement d'une attitude animiste. Apparemment, il a une tendance à être animiste. Les enfants peuvent penser que les voitures roulent toutes seules, que quand elles ont besoin de tourner, leur clignotant se met en route tout seul. On a des questions d'enfants. Est-ce que le clignotant se met en route tout seul avant que la voiture tourne? Ben non, c'est papa ou maman qui l'actionne. Voilà. Et l'idée aussi que les nuages puissent être des êtres vivants. Les nuages, c'est un vrai problème pour les enfants parce qu'il peut y avoir, il ne peut ne pas y avoir de vent au ras du sol. Et pourtant, du vent au niveau des nuages. Donc les nuages bougent, mais on ne sent pas d'air qui puisse les pousser. Et donc, du coup, les nuages sont longtemps une épreuve, hein, théorique importante pour la curiosité de l'enfant. Comment ils peuvent bouger, puisque rien ne semble les faire bouger. Voilà, alors, ça nécessite, vous voyez, beaucoup d'explications des adultes pour passer d'une attitude animiste à une attitude simplement anthropomorphe et non animiste. Alors, si dit avec les robots, on va être confronté au fait que ben, les robots vont pouvoir nous interpeller, les robots vont pouvoir nous appeler par notre prénom, les robots vont pouvoir nous demander que nous nous occupions d'eux, les robots vont pouvoir nous proposer de nous occuper de nous. Et la frontière bien établie par notre culture entre anthropomorphisme et animisme pourrait bien à nouveau s'estomper un peu.
Alors on va justement aller assez vite sur ces questions des relations qu'il va falloir peut-être codifier entre nous et les robots. Mais juste avant, et pour prolonger et la question de Jean-Bernard Baume et la réponse que vous venez de faire sur cette façon aussi que nous avons de projeter des choses dans les objets qui nous entourent, je voudrais vous faire écouter juste un court extrait d'une interview d'un philosophe, Dominique Lestel, qui réfléchit beaucoup à la question de la place de l'animal et qui, lui, alors, a une hypothèse qui est la suivante, vous allez l'entendre, qui est le fait qu'on projette aussi dans les objets des relations que nous avions peut-être auparavant avec les animaux et notamment avec les animaux domestiques. Dominique Lestel.
On a aujourd'hui un rapport à nos artefacts qui atteint une intensité telle que ce rapport peut remplacer ou peut se substituer au rapport que l'on a avec des animaux réels. Et que c'est un vrai problème, un vrai phénomène au départ, mais je pense aussi un vrai problème auquel il faut qu'on soit très attentif. Ce phénomène résulte de la convergence de deux processus distincts. Le premier qui est l'appauvrissement de notre rapport à l'animal, c'est-à-dire le fait que notre rapport à l'animal devient très pauvre par rapport à ce qu'il était auparavant, parce que nous ne vivons plus avec des animaux, parce que nous n'avons plus que des rapports extrêmement indirects avec les animaux, et d'autre part avec au contraire l'émergence de technologies extrêmement dynamiques, de technologies nouvelles extrêmement performantes qui permettent de concevoir des artefacts de plus en plus animaux, c'est-à-dire une animalisation de l'artefact par rapport à une certaine autonomie, par rapport à une certaine résistance vis-à-vis de ce qu'on veut faire avec, de la nécessité de négocier avec, etc.
Voilà, le philosophe Dominique Lestel, c'est un son qui date de 2012 que nous avons trouvé sur Internet, sur le site Culture Mobile. Serge Tisseron, quelle est votre réaction ?
Oui, alors tout à fait, hein, mais l'être humain a toujours projeté sur des objets ses pensées, ses émotions, ses sentiments. Simplement, notre culture nous l'a fait oublier, hein, nous a amené à le refouler. Alors ce qui est intéressant avec ces nouvelles machines, hein, c'est avec les robots, c'est que les robots, même s'ils n'ont pas un visage complètement humain, ils ont deux gros yeux. Même les robots qui ont un visage fixe, hein, ils ont en général deux gros yeux, un peu à la mode Walt Disney. Et il a été montré que lorsqu'un humain interagit avec un robot, il passe autant de temps à regarder ses deux gros yeux que qu'il en passe à regarder les yeux d'un humain lorsqu'il interagit avec un humain. Alors qu'il est bien évident que lorsque nous interagissons avec un humain, ben nous cherchons à lire dans les yeux de notre vis-à-vis un peu ses réactions à ce que nous lui disons. Alors que lorsque nous regardons les deux gros yeux dessinés sur le visage d'un robot, nous savons bien que nous n'allons pas y deviner ses intentions. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher quand même de fixer ses yeux, c'est-à-dire d'établir avec un robot l'équivalent d'une communication avec un être humain, même si nous savons que fondamentalement nous ne lirons pas les intentions du robot dans ses yeux. Et il a même été montré d'ailleurs que les régions cérébrales qui s'activent lorsque nous communiquons avec un humain sont à peu près semblables à celles qui s'activent quand nous communiquons avec un humain. Donc vous voyez, même si la machine n'est pas considérée comme un humain, le mode d'interaction en est très proche. Et pour revenir à l'exemple que vous donniez tout à l'heure des fameux soldats américains qui s'attachaient à leur robot Packbot, l'armée américaine s'est d'abord dit, ils s'attachent à leur robot des mineurs, parce que ils ont de la peine à comprendre que c'est une machine. Alors on va leur faire démonter, remonter. Vous savez, comme le fusil dans l'armée traditionnelle, on le démonte, on le remonte, on le remonte, on le remonte. Comme ça, ils auront bien compris que c'est une machine. Alors ils ont fait faire ça, puis ils se sont aperçus que c'était pareil. C'est-à-dire que les soldats avaient beau bien avoir compris que leur machine était une machine, ils pouvaient pas s'empêcher, sur le champ de bataille, de craindre que leur machine soit blessée, et parfois même de prendre des risques pour éviter, des risques vitaux même, pour éviter que leur machine puisse être endommagée. Voilà, donc ça veut bien dire, vous voyez, que nous pouvons le savoir avec notre conscience, et nous pouvons l'ignorer dans les faits, dans nos émotions, et donc dans nos comportements. Et c'est vraiment une épreuve à laquelle nous aurons tous à faire, hein, et il faudra toujours nous faire une injection de rappel, ce n'est qu'une machine, ce n'est qu'une machine, ce n'est qu'une machine.
Et une machine, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, vous parliez tout à l'heure des yeux. Vous avez dit les gros yeux. Mmh. Les gros yeux. Pour l'instant, ils font les gros yeux, les robots. Mmh. Mais en fait, ça pose la question, puisqu'on tourne autour des émotions, des sensations, ça pose la question de la pudeur. Vous savez que Jacques Derrida, le philosophe, qui était le philosophe de la déconstruction, l'un des grands gestes déconstructeurs qu'il adressait à la métaphysique occidentale, et notamment à sa tradition anthropocentrée, qui justement faisait de l'animal, dans la tradition cartésienne, l'animal machine, justement, qui n'aurait pas de pudeur, qui n'aurait pas accès au rire, à l'inconscient, à la raison. Eh bien, ce geste déconstructeur de Derrida à l'égard de la philosophie occidentale sur la question animale, eh bien, il partait de quelque chose de très très concret, d'une question extrêmement concrète. Derrida disait « Que se passe-t-il quand on croise, nu, le regard de ce qu'ils appellent, un animal ?» Voyez. D'après vous, est-ce qu'on peut avoir le même geste déconstructeur ou philosophique à partir de la question « Que se passe-t-il quand on croise, nu, le regard de ce qu'on appelle un robot ?»
Alors, très probablement, oui. Et d'ailleurs, il est prévu d'ores et déjà que les robots qui pourront aider des personnes âgées à faire leur toilette ne soient pas munis d'un visage d'apparence humaine. Parce que...
Cela, on leur fera des tout petits yeux.
Voilà, parce qu'il est pensé de manière légitime que la personne âgée, ou pas âgée d'ailleurs, pourrait imaginer que son robot le regarde ou la regarde et en être gêné. Donc c'est bien des choses qui sont prises en considération. Mais ce qui est intéressant avec les robots, c'est que une simple boule avec deux yeux humains ne provoquerait pas la même intensité de la projection. C'est-à-dire que ce qui est important chez le robot, c'est le fait que par ailleurs, on puisse avoir une relation avec lui, encore une fois, qu'il puisse nous interpeller, qu'on puisse lui parler, qu'il puisse nous répondre. Et puis aussi le fait que, indépendamment d'un regard, il puisse avoir une main humaine. Le jour où les robots auront une main capable de toutes les performances de la main humaine, probablement, même s'ils n'ont pas des yeux humains, on sera amené à les créditer de plus de conscience que tant qu'ils ont des pinces ou des tourniquets à la place au bout des poignets. Donc, vous voyez, la relation robot, c'est pas seulement une question de visage et d'yeux, c'est vraiment une question de projection de chacune de nos capacités humaines. Ce qui d'ailleurs répond bien à une question qui est parfois posée par des journalistes, par des philosophes. Pourquoi fabriquer des robots avec des jambes? Alors les roboticiens disent, parce qu'ils monteront plus facilement les escaliers. Oui, mais un robot sur chenille, il montera aussi plus facilement, encore plus facilement les escaliers qu'un robot avec des jambes. Alors pourquoi des jambes? Tout simplement parce que les robots avec des jambes sont pas faits pour que les robots montent les escaliers. Les robots avec les jambes sont faits pour que les gens aient envie d'acheter des robots. C'est-à-dire qu'il est bien plus familier pour les gens d'acheter un robot qui a deux jambes pour monter le duplex, l'appartement en duplex, qu'un robot qui monte sur des chenilles. Surtout si avant d'acheter le robot, on a eu un ado qui descendait les escaliers sur son skate. On n'a pas envie de voir ensuite un robot qui les monte sur des chenilles. On a envie de voir un robot qui les monte sur des jambes. Voilà. Donc, si vous voulez, les jambes ne sont pas nécessaires pour que le robot se déplace même entre plusieurs niveaux d'un appartement. Mais en revanche, il est bien plus familier à un humain d'avoir affaire à un tel robot, et ça rentre dans toutes les projections que l'humain peut faire sur la machine.
Alors là, on parle de l'apparence que peuvent avoir ces robots et des limites à donner entre quelque chose qui va ressembler un peu à ce qu'est l'homme, mais sans aller peut-être trop loin. Il y a l'apparence, mais il y a aussi le comportement. Moi, futur client peut-être d'un robot, parce qu'il y a les robots qu'on va nous proposer, mais il y a aussi ceux que nous allons demander avec un certain nombre de caractéristiques. Moi, futur client, j'aurais peut-être envie d'avoir un robot, par exemple à la maison, qui me donne toujours raison, qui me dit « Tiens, Hervé Gardette, vraiment, alors Hervé, ce matin, tu es resplendissant, et puis quelle intelligence !» Est-ce que le vrai risque, il n'est pas là, c'est-à-dire davantage dans ce que l'on va attendre du comportement du robot ?
Je passe mes journées à lui dire la même chose et apparemment, ça ne suffit pas.
Oui, mais je vois bien que c'est quelque chose qui est pas totalement sincère. Que, au moins, le robot, lui, me le dira sincèrement. Et je vais peut-être, en tout cas, finir par m'en convaincre, Serge Tisseron.
Complètement. Alors c'est le gros problème aujourd'hui avec le développement de la robotique, c'est que pour que la robotique se développe, il faut qu'il y ait un marché de la robotique. Pour qu'il y ait un marché de la robotique, il faut que les gens aient envie d'acquérir des robots. Et pour leur donner envie d'acquérir des robots, on va pas leur vendre des robots qui vont toujours les rappeler à l'ordre, leur faire des reproches, les engueuler quand ils font pas ce qu'il faut. Donc évidemment, les fabricants de robots vont faire des robots qui vont plutôt donner raison à leurs propriétaires, et des robots qui vont caresser leurs propriétaires dans le sens du poil, on peut dire, être toujours gentil, être toujours aimable, avec le risque, effectivement, ben, d'oublier un certain nombre de choses, hein, et d'oublier notamment le fait que la caractéristique principale de l'humain, mais en même temps l'une des occasions les plus formidables qui nous est donnée d'évoluer, eh bien, c'est le fait que nos interlocuteurs soient pas toujours d'accord avec nous. Mais les robots, la première génération de robots, tout au moins, sera probablement une génération de robots qui nous donnera toujours raison.
Alors, cela dit, manifestement, Serge Tisseron, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Oui. J'ai lu hier soir dans le magazine Ouzbek Erika, que m'a conseillé Mathieu Conquet, un article consacré aux robots sexuels. Parce que là aussi, il y a une question qui est extrêmement importante aujourd'hui, l'utilisation de ces robots et aussi des robots qui sont construits
décidément
pour ça. C'est notamment au Japon, non, et qui expliquait que certains robots féminins, étaient justement conçus avec une capacité à résister un peu pour favoriser l'excitation de celui qui les utilise. Alors on voit quand même qu'on va extrêmement loin. Et il y a même des robots enfants, là aussi, qui seraient une façon de calmer les pédophiles en disant, bah voilà, moi on va se servir de robots et ça évitera d'avoir des actes de pédophilie. C'est quand même des questions qui vont se poser de plus en plus et qui sont extrêmement compliquées à régler. Et à régler d'un point de vue quoi ? Alors, c'est un point de vue moral, c'est un point de vue juridique ?
Alors, pour ce qui concerne le robot un peu robot sexuel un peu réticent à faire ce qu'on lui demande, voilà, il faut insister, et puis voilà. Alors, il faut bien comprendre que les robots, très probablement, seront conçus comme les jeux vidéo aujourd'hui. Quand vous achetez un jeu vidéo, vous pouvez le faire en mode normal, vous pouvez le rendre plus difficile, beaucoup plus difficile, hein, il y a un curseur, vous pouvez le rendre aussi plus facile, beaucoup plus facile. Et donc, c'est selon votre humeur du moment, si vous avez beaucoup de frustration dans votre vie, dans la journée, ben, vous allez mettre en très facile, vous allez vous sentir maître du monde, vous allez tout gagner. Puis si un jour vous avez été très gratifié, vous avez envie, vous sentez capable d'affronter des difficultés plus grandes, vous mettez en plus difficile ou en très difficile. Donc l'important, probablement, ça sera que les robots puissent être de la même manière, hein, non seulement adaptés aux attentes de leurs consommateurs, même adaptés aux attentes ponctuelles, avec la possibilité de régler les niveaux de réticence possibles, où il n'y a pas que la réticence possible du robot à des pratiques sexuelles. Il y a aussi la capacité du robot de plaisanter. Il y a des moments où on n'aura pas envie d'avoir des robots qui plaisantent. On aura envie d'avoir des robots qui obéissent. Puis d'autres fois, le week-end, on aura envie de s'amuser avec notre robot, on le réglera plaisantin. Voilà. Donc l'idée, ça sera d'avoir toujours, en tout cas, un interlocuteur à la carte, en fonction de nos attentes. Et c'est là qu'il y a un gros problème, parce que on sait bien aujourd'hui que l'utilisation intensive du téléphone mobile nous a rendus moins tolérants à l'attente. Hein, si aujourd'hui Amazon peut faire le buzz en nous promettant de nous livrer par drone dans l'heure les produits qu'on a achetés, ben c'est parce que nous sommes devenus globalement très intolérants à l'attente. Donc on peut se demander si de la même manière des robots qui correspondraient toujours à nos attentes du moment, hein, j'insiste bien, nos attentes du moment, qui peuvent varier selon les moments, mais réglables, si de tels robots pourraient pas, finalement, à terme, nous rendre plus intolérants, hein, au caractère imprévisible de l'humain. Donc le risque de finir par préférer des robots toujours consensuels avec nous plutôt que des robots qui nous apporteraient la contradiction.
Vous parlez d'attente, donc ça me fait penser à la psychanalyse, parce que la psychanalyse, généralement, enfin, quand on fait une psychanalyse, on attend beaucoup dans le vestibule du psychanalyste. Et puis on attend beaucoup la guérison aussi, parce qu'elle vient toujours... tard ou pas.
Mais ça va mieux quand même, Jean.
Bah, depuis que je vous connais et que vous avez mis très bien, plus difficile, etc. sur le robot, c'est bien. Non, je me disais, c'est intéressant depuis tout à l'heure, parce que vous êtes psychanalyste, vous parlez des robots, et finalement, vous parlez pas vraiment en psychanalyse. Il s'agirait pas d'utiliser des mots compliqués ou des concepts psychanalytiques de transfert, d'inconscient ou autre. Mais je me pose quand même la question, dans votre analyse du rapport des humains aux robots, qu'est-ce qui vient de la psychanalyse et surtout de votre pratique analytique ? Qu'est-ce qui fait que le face-à-face avec l'inconscient, avec le transfert, avec la pulsion, avec tout ce qui échappe à la maîtrise des êtres humains, cette pratique qui a été la vôtre et qui est la vôtre au quotidien dans un rapport à des êtres humains qui souffrent, qu'est-ce que ça vous apporte dans l'analyse des robots ?
Alors déjà, le transfert apporte beaucoup, hein, la conception du transfert. Le fait qu'on prête à un humain avec lequel on entre en contact, le fait qu'un patient, soyons pas très clair par rapport à votre question, le fait qu'un patient prête à un psychanalyste en général beaucoup plus de compétences que le psychanalyste n'en a, ça fait partie du transfert et ça aide beaucoup le traitement. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que même avec un robot aux capacités très limitées, eh bien, les utilisateurs prêtent aux robots des capacités très supérieures à celles que les robots ont en réalité. C'est-à-dire, on est là totalement dans une dynamique de transfert. Et si les vendeurs de robots jouent la carte, en effet, de laisser entendre que le robot a beaucoup plus de capacités qu'il n'en a en réalité, ben, il y a un redoublement de ce transfert et beaucoup de gens finissent par attendre de leur robot beaucoup plus que ce que le robot peut apporter, et notamment beaucoup plus de confiance dans les réponses que le robot peut apporter que ce que le robot n'en mériterait. Donc la compréhension du transfert en tant que phénomène général, parce que le transfert, il faut bien comprendre qu'il est utilisé par le psychanalyste, mais il n'est pas inventé par le psychanalyste. Nous sommes constamment en situation de transfert dans la vie quotidienne, dans la mesure où nous sommes constamment en situation de projection de nos attentes sur nos interlocuteurs. Or, ce qui est intéressant avec les robots, pour un psychanalyste, c'est de comprendre que le robot nous étant vendu comme une machine presque parfaite, même si ce n'est pas vrai du tout, nos attentes vis-à-vis de lui seront très exagérées et que du coup, nous pourrons être tentés de croire que les réponses du robot sont les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'en fait, de la même façon qu'il faut arriver à se guérir du transfert en psychanalyse pour voir son psychanalyste plus proche de sa réalité que de l'idée qu'on en a quand on va le voir, il faudra que nous fassions petit à petit à l'idée que les robots ne sont pas ces machines plus que parfaites que les marchands vont vouloir nous vendre.
Et ça veut dire que la responsabilité, elle va reposer sur qui, d'après vous, par rapport aux robots ? Ça sera sur les concepteurs ? Ce sera sur les vendeurs, ça sera sur les utilisateurs, ça sera sur l'ensemble de ces trois types de personnes.
Elle va être complètement partagée. C'est-à-dire que déjà, on s'aperçoit que le législateur a un travail très important à faire. Vous savez que la Commission européenne planche sur la question des robots, c'est-à-dire quelles préconisations faire, notamment autour de l'utilisation des données personnelles. Bon, faut bien comprendre que votre robot, ça va pas être une machine telle qu'on imaginait un robot en 1950, hein, une machine complètement fermée. En 1950, conception du robot, une machine complètement fermée. Elle a des capteurs qui l'informent sur le monde. Elle a un programme que le programmateur a mis dans la machine qui gère les données, et les données donc des équivalents des organes des sens, et puis elle a des effecteurs qui permettent à la machine d'agir. Ça, c'est le modèle de 1950. C'est le modèle d'avant, ce qu'on appelle le big data, hein, c'est-à-dire la collecte massive des données, et avant l'invention d'Internet. Aujourd'hui, un robot, c'est une machine qui se trouve en bout de chaîne par rapport à trois choses dont on entend beaucoup parler. D'abord, le big data, hein, les données qui nourrissent l'intelligence artificielle. Vous savez qu'une intelligence artificielle, si elle n'est pas nourrie d'un grand nombre de données, elle est bête, voilà, donc il faut beaucoup de données. Et puis l'intelligence artificielle, elle va pouvoir être incarnée, les Américains disent embodiment, elle va pouvoir être incarnée dans une machine qu'on appelle le robot. Et ce robot, il va toujours être relié à un serveur central, parce que très vite, le robot ne va pas pouvoir avoir à l'intérieur de sa carcasse métallique ou de sa carcasse de plastique toute l'informatique qui va lui permettre de gérer les données. Donc ça veut dire que le robot, il va être en permanence relié à un serveur central. Alors aujourd'hui, comme les robots en sont au début, les seules données transmises au serveur central, c'est les données, par exemple, fonctionnant des articulations, dans le cas d'un robot qui marche, voilà. Mais tout ce que vous racontez au robot n'est pas transmis. Très vite, tout ce que vous racontez au robot sera transmis. Il n'y a pas de raison, hein, puisque ça permettra de mieux coller les robots aux attentes des usagers, hein, comme Google utilise toutes les informations qu'ils peuvent recueillir sur vous pour vous proposer, soi-disant, des services plus performants. Donc, responsabilité du législateur pour qu'on sache à tout moment que deviennent nos données personnelles quand on va utiliser un robot, mais alors responsabilité aussi des informaticiens dans le fait qu'il faudra faire des robots quand même, des robots qui ne nous donnent pas l'impression qu'ils sont l'équivalent d'humains. Moi, j'ai dit déjà depuis longtemps à des roboticiens, mais pourquoi vous ne mettez pas des protections transparentes à certaines parties du corps du robot pour que l'utilisateur voit bien toujours qu'à l'intérieur, ben, il y a des câbles électriques, des circuits imprimés. Et le roboticien à qui j'en parlais m'a dit, mais on a bien essayé, mais ça fait peur aux gens. Donc ça amène la troisième responsabilité, mais c'est qu'il va falloir qu'on accepte de voir dans ces machines des machines, alors que beaucoup d'utilisateurs veulent avoir un robot recouvert d'une armure blanche, hein, voilà, immaculé, comme une espèce de super-héros, hein, voilà. Et donc là, il y a aussi une responsabilité de l'utilisateur. Et puis responsabilité de l'utilisateur dans l'éducation des enfants, parce qu'il va falloir très vite éduquer nos enfants, ben avec l'idée que ben les robots, ce sont des machines qui doivent être à notre service, mais qu'il ne faut pas forcément faire tout ce qu'ils nous demandent. Hein. Donc, vous voyez, responsabilité très partagée. Hein.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer, Serge Tisseron, un niveau supplémentaire de responsabilité qui serait la responsabilité des robots, justement. On parle beaucoup de plus en plus de machines qui deviennent de plus en plus autonomes. Et il se trouve que là, ces jours-ci, il y a une chercheuse américaine à Yale qui a planché sur le premier accident mortel causé par une voiture qui avait été mise en autopilotage. Une voiture Tesla, ça fait pas mal de bruit. Puis c'est vrai que c'est un sujet de réflexion assez important de savoir qui est responsable en cas d'accident quand c'est une voiture qui est pilotée sans chauffeur. Et elle considère qu'il faudrait aussi poser la question de la responsabilité du robot en disant, bah, finalement, en tout cas aux États-Unis, la loi considère comme des personnes les entreprises dont les actions peuvent être détachées des décisions des individus. Il n'y a pas de raison qu'un jour, on n'arrive pas à faire le procès d'un robot avec une sanction qui serait celui soit de le déconnecter, soit de reprogrammer la machine. Symboliquement, c'est quelque chose qui, d'après elle, serait important. Vous en pensez quoi ?
Je pense que c'est surtout une astuce pour dédouaner de leurs responsabilités les fabricants et les commerçants. Hein. Donc ça, aux États-Unis, ils en sont friands. Hein. Moins il y a de responsabilités dans l'utilisation d'une machine, plus on peut reporter sur l'utilisateur ou bien plus on peut reporter sur la machine elle-même et moins les fabricants et les commerçants sont responsables de ce qui peut arriver. Non, alors dans l'état actuel des choses, ça paraît d'autant moins souhaitable qu'au contraire, ce qu'il faut viser, c'est des machines qui responsabilise le plus les fabricants et leurs commerçants. Hein. Alors, il y a d'autres études qui essayent de réfléchir à des critères moraux chez les robots. Par exemple, si des enfants jouent avec un robot, dont les enfants disent « envoie-moi le ballon », le robot envoie le ballon, « je te renvoie le ballon », « attrape le ballon », etc. Puis au bout d'un moment, l'enfant montre la vitre de l'école et dit « robot, envoie le ballon dans la vitre ». Alors, est-ce que le robot va devoir le faire ? Là, c'est une question morale toute bête, hein, mais dès que des robots vont être commercialisés et interagir avec des humains, il y aura des humains forcément tentés de demander aux robots des choses qui ne sont pas morales. Alors là, il y a une vraie réflexion, parce que comme les règles morales varient d'une culture à l'autre, ça paraît difficile de fabriquer des robots qui puissent être vendus dans le monde entier, parce que c'est quand même la vocation des robots, et qui a une morale adaptée à tous les pays du monde, parce que la morale japonaise n'est pas la morale occidentale, par exemple. Alors du coup, il y a l'idée que peut-être on confierait finalement aux acheteurs des robots le soin d'éduquer leurs robots dans la morale de leur propre pays. C'est-à-dire que le robot n'aurait pas de morale, mais les robots achetés par une population, par exemple par la population française, seraient élevés comme les enfants, c'est-à-dire par une majorité des éducateurs, dans le respect des règles de la morale française. Donc il y aurait évidemment des gens qui élèveraient leurs robots en marge de la morale, comme certains parents peuvent élever leurs enfants en marge de la morale, et donc il y aurait une espèce de Facebook des robots, il y aurait un réseau des robots qui mettrait en extinction les apprentissages réalisés par certains éducateurs de robots, des parents de robots, on pourrait dire, qui mettraient en extinction ces apprentissages qui seraient forcément minoritaires, par rapport aux apprentissages majoritaires pensés comme des apprentissages responsables. Donc c'est aussi une voie possible de réflexion, mais voyez, on est là dans un modèle qui évoque quand même beaucoup la responsabilité de l'utilisateur du robot sur le modèle de la responsabilité d'un parent d'enfant.
Sur cette question de la morale des robots, de la responsabilité des robots et de la façon dont nous autres humains, on pourrait se débarrasser de toute éthique sur le dos des robots, en fait, c'est une question très ancienne qui pose notamment le problème de la guerre aérienne, où on parlait tout à l'heure des drones. Vous savez que dès 1947, Georges Bernanos, qu'on a déjà cité, je crois, pendant ces rencontres, l'écrivain chrétien et royaliste, qui est l'auteur de ce livre qui s'appelle « La France contre les robots », eh bien, il disait l'effroi que suscitait pour lui, à ses yeux, la guerre aérienne, et il demandait, finalement, quand un pilote d'avion peut broyer des milliers de corps, là, c'était les avions, hein, peut broyer des milliers de corps sans même apercevoir leur silhouette, tellement il est haut et loin, que devient le métier de soldat ? Et il ironisait en disant « C'est une besogne dont, je cite, un gentleman peut venir à bout sans salir ses manchettes ni son imagination. » Avec ce sentiment donc que seule la machine est en cause. Aujourd'hui, ce débat-là revient en force avec la question des drones, hein, de ces machines qui permettent de tuer en appuyant sur un bouton à des milliers de kilomètres de là. Et la grande question qui se pose à ceux qui travaillent sur les drones, c'est effectivement quel type d'humanité et quel type de pouvoir politique annonce ou laisse entrevoir la tuerie du drone.
Tout à fait, et c'est un problème qui va connaître, qui est en train de connaître un début de rebondissement avec ce qu'on appelle le soldat augmenté. C'est-à-dire le soldat augmenté dans la conception chinoise, dans la conception russe, ce soldat augmenté n'obéit pas forcément aux mêmes règles éthiques, aux mêmes règles morales que le soldat augmenté conçu par l'armée française. Donc le problème va s'aggraver encore de ce côté-là. Mais d'ores et déjà,
juste peut-être nous dire ce que c'est que le soldat augmenté.
Ah, excusez-moi, le soldat augmenté. Alors c'est un soldat qui est doté de capacités de capacités sensorielles augmentées, par exemple les capacités de voir la nuit. Donc modification physiologique, de force augmentée, d'intelligence augmentée, voilà. Et donc l'idée que les combattants de demain, les humains combattants de demain, seraient des sortes de cyborgs. Et certains de ces cyborgs seraient conçus en essayant de respecter les règles éthiques. Seraient conçus, les cyborgs conçus en Occident seraient conçus en essayant de respecter les règles éthiques de l'Occident. Mais d'autres pays pourraient très bien concevoir des humains augmentés sans aucun respect des mêmes règles éthiques. Un soldat augmenté conçu sans aucun respect de règles éthiques pouvant être finalement beaucoup plus efficace qu'un soldat dont l'augmentation aurait été limitée par des règles éthiques. Donc c'est déjà exactement ce problème qu'on voit avec les robots, puisque il y a déjà des robots chargés de rétablir le maintien de l'ordre, des robots conçus en Russie chargés de maintenir le maintien de l'ordre, qui sont programmés pour tirer sur tout ce qui bouge. Ils patrouillent dans des rues, ils tirent sur tout ce qui bouge. Bon, pour l'armée française, ben il faut savoir d'abord qu'est-ce qui bouge. Si c'est une maman qui vient, si c'est un enfant qui vient récupérer sa pluche laissée au milieu de la route, si c'est une mère qui va chercher de l'eau à la fontaine à côté, bon ben il vaut mieux que le robot ne tire pas. Mais voyez, ça crée des contraintes dont tous les pays ne s'entourent pas. Et donc aujourd'hui il y a un énorme dilemme dans le domaine de la robotisation de l'armée, ben, c'est de savoir jusqu'où le respect des règles éthiques risque pas d'handicaper les armées des pays qui veulent s'attacher au respect des règles éthiques. Donc et il y a des problèmes, il vaut mieux ne pas avoir à les résoudre parce que c'est quand même très très compliqué. Voilà.
D'autant que se développent en plus des armes qui sont de plus en plus autonomes, c'est-à-dire là on parle de drones où il y a quand même une intervention humaine, il y a toutes des travaux qui sont menés pour justement créer des robots tueurs qui pourraient agir sans supervision humaine. Alors ceux qui défendent ça disent bah finalement ce sera aussi ça évite justement l'erreur qui est humaine comme chacun sait. Sont aussi des machines qui ont peut-être une meilleure vision, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de préjugés, donc qui vont agir peut-être de manière finalement moins mauvaise que les humains. Puis il y a quand même tout un tas de scientifiques notamment qui ont lancé un appel justement pour l'interdiction de ces robots. Pour l'instant, on en est là, mais c'est pas très bien. Alors, de quel côté la balance va pencher?
Ces robots que l'initiative de feu existe déjà. Hein. Ils existent notamment sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors le problème de ces robots, c'est que ils n'ont pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une autonomie de feu. Hein, il faut bien comprendre que là, il y a quand même une supercherie. C'est que ces robots, ils sont programmés avec une certaine marge de manœuvre, mais cette marge de manœuvre est celle pour laquelle ils ont été programmés. Je vous donne un exemple. Un robot à une frontière, ben il peut être programmé pour tirer sur tout ce qui bouge, y compris les feuilles mortes qui tombent des arbres en automne. Il peut être programmé pour tirer sur tout ce qui bouge et qui a une certaine température qui évoque une température humaine, donc il pourra tirer sur les lapins, sur les adultes et les enfants, ou il peut être programmé pour tirer uniquement sur des silhouettes de plus d'un mètre cinquante, par exemple, en supposant que des adultes, ou bien sur des silhouettes d'une certaine taille, émettant une certaine température et munies d'un objet métallique. Et une fois que la machine est programmée d'une certaine façon, elle accomplit son boulot comme elle a été programmée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les militaires disent ben, dans l'ancien temps, on renvoyait toujours la commande à l'humain, mais l'humain appliquait en fait un check-up. Ben, voilà, il appliquait les ordres fixés par l'état-major. Donc il regardait si les conditions étaient réunies. Si les conditions étaient réunies, fire, il appuyait sur la touche feu. Et maintenant, ben, c'est le robot tout seul qui vérifie si les conditions sont réunies. Mais il ne s'agit pas d'une autonomie de feu au sens où la machine créerait ses propres règles. Et il faut bien comprendre que d'ailleurs, c'est sans doute dans le domaine militaire que les robots les robots autonomes, c'est le dernier endroit, l'armée est le dernier endroit où les robots autonomes seront introduits. Parce que l'état-major veut que les soldats réagissent per inde ad cadaver, c'est-à-dire sans état d'arme comme il lui est demandé. L'état-major va jamais décider que des machines pour avoir une autonomie que les soldats humains n'ont pas. Pour l'état-major, il faut que les machines réagissent exactement comme il leur est demandé de réagir. Donc le problème du robot autonome, c'est beaucoup plus peut-être dans le domaine de la sexualité qui sera attendu, mais dans le domaine de l'armée, non, ça sera pour être des robots extrêmement meurtriers, mais qui répondront toujours à des programmes bien fixés par l'état-major. Ça, je dis toujours, c'est pas les robots qu'il faut craindre, c'est ceux qui les programment.
Ce que vous dites évoque forcément, nous le reprocherait sans doute si on n'évoquait pas Asimov et les lois de la robotique. Je vous rappelle quand même les trois lois, même s'il en avait créé, je crois, une quatrième bien des années après. Mais trois lois, c'est la première. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif et permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ces lois de la robotique qui datent déjà, est-ce qu'elles vous paraissent être un socle intéressant, Serge Tisseron, pour imaginer la façon dont on va réguler justement les rapports que nous avons et que nous aurons avec les robots ?
Alors, il semble que ces lois aient été imaginées par Asimov pour écrire des romans très intéressants. Et il y est en effet bien arrivé, parce que ce sont des lois qui créent des dilemmes moraux. Mais quand on en parle avec des roboticiens, ils disent non, ça peut pas marcher. Et voilà l'exemple qui m'a été donné, je vous répète, qui m'a été donné, c'est vous demandez à un robot de suivre votre doigt en laissant ses pieds toujours au même endroit. Donc le robot doit faire pivoter sa tête puis son tronc. Et si vous lui demandez de suivre votre doigt en tournant autour de lui, en toute logique, s'il respecte les lois d'Asimov, il doit s'autodétruire en faisant un mouvement qu'il détruit. Or, les roboticiens disent qu'aucun robot ne s'autodétruira pour faire plaisir à un gamin qui lui demande de suivre son doigt en tournant autour de lui. Donc ça veut dire que la deuxième et la troisième loi d'Asimov ne peuvent pas s'appliquer aux robots.
Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on n'a pas parlé des droits, de la question des droits. Finalement, on a tous été éduqués ou formés à l'école d'une grande tradition philosophique, même au-delà de la philosophie, qui est centrée sur une forme de prééminence de l'être humain, de dignité spécifique de l'humanité, l'humanité qui a accès, donc, on l'a dit tout à l'heure, à la raison, à l'inconscient, au rire, à la pudeur. Et donc, et l'animal étant défini par ce qui lui fait défaut, ce à quoi il n'a pas accès. Eh bien, aujourd'hui, et c'est le titre de notre table ronde, c'est quand même, est-ce que l'humanité est détrônée par les robots ? Et donc, par exemple, est-ce que pour vous, en tant que chercheur et quelqu'un qui a des réflexions sur ces sujets, est-ce que pour vous, la question des droits des robots doit être posée frontalement ? Est-ce que pour vous, il faut donner des droits aux robots ?
Alors, dans l'état actuel des choses, les robots sont fabriqués avec des matériaux inertes. Hein, ils sont fabriqués avec du métal, du plastique, du silicium. On voit pas pourquoi il faudrait leur donner des droits. Alors, il y a certains juristes qui disent, mais écoutez, quand même, bon, d'accord, ils sont fabriqués avec des matériaux inertes, mais quand même, entre un grille-pain et un robot, il y a quand même un monde. Donc, ça serait logique de reconnaître cet écart incroyable et d'accorder des droits aux robots. Alors, je leur réponds, ben, écoutez, entre un silex taillé et un grille-pain, il y a un monde. Mais c'est pas pour ça qu'on a accordé des droits au grille-pain. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un monde entre un grille-pain et un robot. Mais dans 10 ans, il y aura un monde entre les robots que nous concevons aujourd'hui et les robots que nous concevrons dans 10 ans. Donc je pense que les droits des robots, il faudrait les réserver à l'époque, lointaine encore, hein, lointaine peut-être 50 ans, il faudrait les réserver à l'époque où les robots seront fabriqués avec des matériaux biologiques. Puisque les robots que nous connaissons aujourd'hui ne sont que des prolongements très sophistiqués, que des machines très sophistiquées, hein, voilà. Mais sont des poupées animées, des machines, des automates très sophistiqués, mais c'est encore des automates. En revanche, le saut qualitatif, il se fera lorsque des machines seront conçues, donc des objets, on ne parle même pas des machines, lorsque des créatures seront conçues par les humains en utilisant des matériaux biologiques. Ce qui commence à se faire, puisqu'il y a déjà un petit robot qui perçoit l'environnement avec des caméras qui se déplacent dans l'espace avec des petites roues, mais l'interface entre les caméras et les roues, c'est des neurones, neurones de rat ou neurones humains. Et donc là, déjà, on a un début de robot dans lequel il y a du métissage entre des matériaux biologiques et des matériaux inertes. Et donc probablement, lorsque ce modèle de robot se développera, on sera en droit de se poser la question de savoir si ces robots fabriqués avec des briques biologiques ne constituent pas une nouvelle catégorie de créatures à laquelle il faudrait reconnaître un certain nombre de droits. Mais tant que les robots sont fabriqués avec des matériaux inertes, ce ne sont que des supermachines. Des supermachines capables de créer des formidables illusions. Et c'est ça dont il va falloir, à quoi il va falloir être vigilant. Ne pas croire que ces illusions correspondraient à une réalité. Et ça va pas être facile, parce que ça va être des super illusions. Des super illusions de vie. Les robots vont être des machines à simuler formidablement efficaces. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison d'inscrire cette capacité de simulation dans la loi en leur créant un statut d'exception. Ça ne ferait qu'encourager le quiproquo, encourager le risque de les considérer comme plus humains qu'ils ne sont.
Et la question des droits, évidemment, elle pose aussi d'emblée celle de la responsabilité, celle des libertés. Vous savez que je citais Jacques Derrida tout à l'heure, il disait toujours que la manifestation la plus intense, la plus exaltante, la plus fragile aussi de notre liberté et de notre responsabilité, c'est notre capacité à tenir promesse. Il disait, la promesse est un acte impossible, mais c'est le seul acte digne de ce nom. Est-ce que, pour vous, il est envisageable qu'un jour, un robot tienne promesse? Est-ce que, par exemple, si on avait invité deux robots aujourd'hui à vos côtés, ils seraient venus de toute façon, de toute façon...
Bah déjà, ils seraient venus, peut-être.
Voilà, c'est une question, on n'est pas sûr. Serge Tisseron.
Oui, c'est en ça que les robots vont beaucoup nous plaire. C'est qu'ils vont être toujours complètement fiable. Vous savez, la confiance dans le robot, c'est le talon d'Achille du robot. C'est-à-dire que, regardez, on en parle beaucoup aujourd'hui par rapport à cet accident que vous évoquiez tout à l'heure d'un véhicule automatique qui a eu un accident. Alors, des êtres humains qui ont des accidents, il y en a constamment. Des militaires qui font ce qu'on appelle des bavures, hein, voilà, qui tuent des civils, voilà, par énervement, par colère, même pas par erreur, mais sous l'effet de la passion, il y en a pas constamment, heureusement, mais il y en a régulièrement. En revanche, on sait que si un robot programmé pour ne pas avoir d'accident en a un seul, la confiance dans le robot est ruinée. Si un robot engagé sur un champ de bataille avec l'idée qu'il ne cédera pas à la passion et qu'il ne fera pas d'erreur et qu'il pourra toujours bien identifier les civils, les militaires, etc., si un jour il fait une erreur, ça va flamber dans la presse. Donc aujourd'hui, on sait que la confiance dans le robot, c'est la qualité numéro un pour nous rassurer sur les robots. Nous abordons le monde des robots avec beaucoup de réticence. Notre imaginaire occidental est peuplé de Terminators, ou de robots séducteurs, ou de robots menteurs, voilà. Et donc, du coup, les fabricants de robots savent qu'il faut que les robots commercialisés correspondent totalement aux promesses qui sont faites aux utilisateurs. Sinon, c'est pour ça que c'est si progressif, hein, c'est pour ça que ça va si lentement. Voilà, donc la confiance dans le robot sera la qualité numéro un. Et alors, si le robot se trompe, eh ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux des chercheurs pour que ça soit attribué à un bug et pas à une mauvaise intention. C'est pour ça que d'ores et déjà, il y a des robots qui sont programmés pour se tromper sur des choses simples, de manière à ce que, quand ils se tromperont sur des choses importantes, on puisse penser que peut-être c'est un bug aussi. Voilà. Et donc du coup, vous voyez, la question de l'erreur du robot est vraiment au centre de tout un débat sur l'acceptabilité des robots. Comment faire en sorte qu'un robot puisse se tromper et qu'il continue à être acceptable? Il faut accepter qu'il est bugué, qu'il n'ait pas eu une mauvaise intention. C'est ça le risque.
Et peut-être que pour nous rassurer, les robots vont aussi chercher par moments à nous séduire. À nous séduire comment? Eh bien, par exemple, en écrivant des poèmes. Ou en faisant de la musique, en créant de la musique. Oui, on est plein festival de Radio France ici à Montpellier. Tiens, je vous laisse tous, juge, le public, et vous, Serge Tisseron, écoutez. Première musique composée par un robot, c'était l'an dernier. C'est Google, évidemment, Google qui.
Ça, c'était David Guetta, moi, j'ai pas.
Alors oui, voilà, je m'attendais à ce genre de réaction justement. Ouais, c'est pas si mal pour une première composition, Serge Tisseron.
Ce serait de la bonne musique pour un jeu vidéo. Oui, alors les robots sont capables de faire énormément de choses à la manière d'eux. Hein, voilà, vous rentrez tout Proust chez un robot, il va vous faire du Proust. Hein. Et comme vous confiez tout Hergé à un excellent dessinateur, il vous fait de l'Hergé. Mais en même temps, il y aura pas l'âme de Hergé ou le dessinateur de Tintin. Voilà. Donc dans le robot qui imite Proust, ben probablement il y aura pas la patte de Proust. Au moins dans un premier temps, dans un second temps, on ne sait pas. Donc en tout cas, ça nécessitera de toujours avoir une précision, savoir si ça a été composé par un robot ou pas. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Savoir à tout moment, à quel moment on a eu affaire à une intelligence artificielle ou pas. C'est très concret, puisqu'il y a déjà une grande banque française qui fait répondre à ses clients qui appellent au téléphone par une intelligence artificielle, et les clients ne le savent pas et pensent avoir affaire à un humain. Donc ça, je pense, c'est vraiment une revendication, une vigilance à avoir, que nous sachions à tout moment quand nous avons affaire à une intelligence artificielle, parce qu'un jour, on aura affaire à une caissière au supermarché, on penserait que ça soit un humain et ça pourrait être un robot.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Tisseron, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir finalement fait ce qu'on pourrait appeler désormais, je ne sais pas si ça se reproduira, mais la leçon de clôture. Nous avons la leçon d'ouverture qui était cette semaine tenue par Jean-Claude Milner. On a terminé, comme on l'avait commencé, avec un psychanalyste, et c'était donc vous, Serge Tisseron. Je renvoie donc à votre...
L'année prochaine, on invite 3 robots et plus de sueur froide.
Oui, voilà.
C'est fini, on est peinards.
Oui, sauf qu'on sera peut-être nous aussi remplacés par des robots.
Oui,
ça n'est pas
Dieu
encore
ne
le
plaise.
Cas. Donc, si jamais c'était la dernière fois, je vous dis à bientôt, Jean-Bernard Baume. Merci beaucoup. Merci Serge Tisseron, merci au public. Merci évidemment aux équipes du rectorat de Montpellier et du Festival de Radio France. L'équipe technique qui a assuré la retransmission aujourd'hui, Alexandre James, Yvan Turc, Yvan Charby et François Rivaland. Émission réalisée par Nathalie Salle avec Mathieu Maroudin à la coordination et Rose Nouchi à la documentation. Voilà, passez tous un bel été en lisant Le Monde et en écoutant France Culture.